Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Merci d'être avec nous jusqu'à 9h, temps universel. L'antenne est à vous dans 30 minutes. Nous parlerons du Niger. Les assises nationales de la refondation du pays se sont achevées jeudi dernier. Plus de 700 délégués choisis par le pouvoir à travers tout le territoire ont fait un certain nombre de recommandations quant au cadre et la conduite de la transition. Parmi les propositions les plus attendues, la durée de la transition. Les délégués ont proposé 5 années renouvelables, l'élévation du général Tchani au rang de général d'armée, le plus haut rang dans la hiérarchie militaire, ou encore une amnistie pour les acteurs du coup d'État de juillet 2023. Qu'en pensez-vous? Que vous inspirent ces recommandations au Niger? On en débat dans 30 minutes. Le sujet vous fait réagir à en croire les très nombreux commentaires sur les comptes WhatsApp et Facebook de l'émission. Bien sûr, on vous attend au standard 33 9 693 693 70. Mais tout de suite, votre rendez-vous pour mieux saisir et comprendre l'actualité avec vos questions. Bonjour Brahim.
Bonjour.
Vous êtes à N'Djamena au Tchad. Vous avez des questions au sujet du Soudan, pays est-africain en proie à la guerre des généraux depuis avril 2023, et de la signature au Kenya la semaine dernière d'une charte entre les paramilitaires FSR dirigés par le général Ameti et leurs alliés. Un texte destiné à créer un gouvernement parallèle. Et pour répondre à vos interrogations, nous sommes en ligne avec Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique et du Moyen-Orient. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Brahim, on vous écoute.
Merci. Au Kenya, les FSR du général Ameti et leurs alliés ont signé une charte pour créer un gouvernement soudanais parallèle. Qu'est-ce que la création de ce gouvernement peut changer au conflit?
Marc Lavergne.
Bah écoutez, je pense que cette alliance entre diverses forces opposées à l'armée était nécessaire dans la mesure où l'armée elle-même s'est composée, s'est dotée d'un gouvernement, ce qui lui a donné une plus grande représentativité à l'extérieur et lui a permis d'assurer une sorte de normalisation à l'intérieur. Donc l'armée gagne du terrain, elle est en train de reprendre la capitale, elle reprend du terrain aussi dans l'est du pays et dans le centre du pays. Donc elle se dote d'une sorte de légitimité, de crédibilité, avec des soutiens extérieurs, en particulier l'Égypte, l'Iran, la Turquie, la Russie peut-être, et elle est appuyée par des mouvements islamistes.
Marc Lavergne, pardonnez-moi de vous couper, mais est-ce que la signature de cette charte est de nature à changer le rapport de force sur le terrain?
C'est plutôt sur la scène internationale. Sur le terrain, cette charte, elle réunit des groupes très disparates, à la fois des groupes militaires, des éléments de la société civile, des partis traditionnels, enfin finalement tout ce qui s'oppose à l'armée. Donc la question est de savoir comment, d'une façon opérationnelle, ce gouvernement va pouvoir fonctionner. C'est un peu douteux dans la mesure où ça réunit des éléments qui sont extrêmement distants, divergents, et qu'il n'y a pas une base très très solide à part le fait de vouloir établir un gouvernement civil et revenir à la transition démocratique qui avait été bloquée par l'armée déjà en 2021.
Alors Brahim, il me semble que vous avez une seconde question pour Marc Lavergne.
Cette annonce faite à Nairobi peut-elle avoir des conséquences sur les relations entre le Soudan et le Kenya?
Absolument, question intéressante, car hier, le gouvernement soudanais a déclaré qu'il prendra des mesures nécessaires en réponse à ce qu'il qualifie de soutien irresponsable et hostile du Kenya. Marc Lavergne vous répond.
Oui, je pense que le Kenya n'est pas un pays voisin du Soudan. Hein, c'est un pays qui joue un rôle important à l'échelle de l'Afrique de l'Est, bien sûr, mais et il n'est pas le seul pays à soutenir cette transition démocratique, en quelque sorte. Mais d'un point de vue opérationnel, je ne pense pas que le Kenya puisse intervenir beaucoup dans ce dossier soudanais. Hein, il a accordé l'hospitalité, finalement, à tous ces groupes représentatifs de la société civile, en quelque sorte, mais l'Ouganda joue un rôle important, l'Éthiopie aussi, et le Tchad, bien entendu, d'un point de vue plus opérationnel, si vous voulez. Je ne pense pas que la relation entre le Soudan et le Kenya soient impactés par cette présence. Le Kenya peut accorder son hospitalité, il l'a déjà fait par le passé, hein, pour abriter des discussions entre des mouvements rebelles soudanais, ceux des Monts Nouba, auxquels j'ai participé d'ailleurs, et puis le gouvernement de Khartoum. Mais ça ne va pas plus loin qu'un rôle d'hospitalité, je dirais.
Rappelons que cette guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, plus de 12 millions de déplacés et a entraîné des violations flagrantes et généralisées des droits humains selon les Nations Unies. Brahim, avons-nous entièrement répondu à vos questions ?
Merci.
Eh bien, on remercie également Marc Lavergne pour ses éclairages. Eh bien, on vous souhaite une excellente journée, Anne Djamena, ainsi qu'à tous nos auditeurs, fidèles auditeurs au Tchad. Nous sommes à présent avec Mamadou, qui nous appelle du Canada, très précisément de la ville de Laval au Québec, où il est actuellement 3 heures du matin. Bonjour Mamadou et merci d'être avec nous.
Bonjour Ramoré Dussault, bonjour à tous les auditeurs de la RFI, la radio qui nous parle chaque matin, qui nous donne la parole.
Alors vous souhaitez un éclairage au sujet de la situation de l'opposant guinéen Abdoul Sakho, enlevé à son domicile de Conakry mercredi dernier par des hommes armés et cagoulés avant d'être retrouvé dans un état critique quelques heures plus tard. Mamadou, on écoute votre question.
Alors, en Guinée, l'opposant Abdoul Sakho a été enlevé puis retrouvé dans un état grave. Alors, ma question est, que sait-on aujourd'hui des circonstances de son enlèvement ?
Alors, pour vous répondre, Mamadou, nous sommes en direct de Conakry, la capitale guinéenne, avec Maître Sékou Keïta, un des avocats d'Abdoul Sakho. Bonjour, Maître.
Bonjour, monsieur.
Alors, quelle réponse pouvez-vous nous apporter au sujet de ce qui s'est passé et ce qu'a vécu votre client ?
Ok, merci bien pour cette question. Le jeudi 19 février 2025, dans les environs de 4 heures du matin, M. Abdoul Sakho et sa famille ont reçu la visite des hommes cagoulés, lourdement armés et à bord d'une dizaine de véhicules non immatriculés. Lorsqu'ils ont escaladé le mur et pénétré dans la cour de M. Sakho, ils ont arrêté et ligoté les voisins et les forçant à indiquer la maison de M. Abdoul Sakho. Puis ils ont posté des hommes armés à tous les quatre coins de la cour. Pendant ce temps, l'un des ravisseurs était en contact avec une personne qui indiquait précisément l'emplacement de la maison d'Abdoul Sakho. Puis après, ils ont localisé la maison de M. Sakho et ils ont tenté de forcer la porte. Ne disposant pas de hache, ils ont utilisé des haltères que les jeunes utilisent pour s'entraîner. Finalement, ils ont réussi à défoncer le plafond et ils sont rentrés dans la maison de M. Abdoul Sakho. Une fois dans la maison, les ravisseurs l'ont giflé et jeté par terre. Puis ils l'ont attaché avant de l'embarquer. D'après l'épouse de notre client, ceux qui ont capturé son mari étaient armés de pistolets et de fusils d'assaut. Ils ont ordonné à sa fille mineure de moins de 10 ans de s'allonger par terre, ainsi que sa jeune sœur. Puis ils ont jeté sa mère dans la cuisine. Le même jour, vers 14h, après lui avoir administré plusieurs coups et blessures, torturé, il a été abandonné par ses ravisseurs en brousse à Mafraya dans la préfecture de Forcaria, où il a été retrouvé par des paysans de Forcaria.
Alors maître, avez-vous des nouvelles en ce qui concerne l'état de santé de l'opposant Abdoul Sakho ?
Oui, actuellement ça va mieux, mais jusqu'à présent, je réaffirme qu'il n'arrive toujours pas à utiliser le téléphone avec sa main. Il est toujours très, très, très malade.
Est-ce à dire qu'il gardera des séquelles ?
Non, il gardera forcément des séquelles. Il y a forcément des séquelles.
Alors, le week-end dernier, Ousmane Gawal Diallo a précisé chez nos confrères de TV5Monde, je cite, qu'Abdoul Sakho devrait être auditionné, que l'appareil judiciaire devrait se mettre en branle pour éclairer l'opinion. À ce propos, maître, y a-t-il eu une communication officielle à ce sujet ?
Nous avons entendu la communication de M. le ministre porte-parole du gouvernement, mais à date, nous qui sommes les conseils d'Abdoul Sakho, on n'est informé de rien. On ne sait pas s'il a été convoqué, on n'est pas connaissant d'une communication officielle dans ce sens-là, on est informé de rien jusqu'à date.
Mamadou, avez-vous une autre question pour Maître Sékou Keïta ?
Alors, que pourrait-on lui reprocher ?
Bon, M. Abdoul Sakho, lorsqu'il a été arrêté, il a été soumis à 4 heures de traitement cruel, inhumain et dégradant, pendant lesquels il a été interrogé sur ses activités de la société civile, ses prises de position dans les médias et en lien avec les politiques et ses prises de position en faveur du rétablissement de l'ordre constitutionnel. On l'a sérieusement torturé sur cette question. Quels sont ses liens avec les hommes politiques? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il prend des positions acerbes dans les médias? Et quel est l'objectif final pour lui? Il a simplement répondu à ses ravisseurs que son objectif, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, c'est tout.
Maître, diriez-vous que votre client a été agressé en raison de ses positions, de ses opinions politiques?
Mais rien que ça. M. Abdoul Sakho, ne disposant pas de biens, on ne peut pas venir l'agresser pour ça. On ne peut pas enlever quelqu'un pour le torturer et puis le jeter en brousse parce qu'il a des biens ou autre chose. C'est rien que ses opinions politiques.
Maître Sékou Keïta, merci d'avoir répondu aux questions de Mamadou. Hein. À Laval, au Canada, nous sommes à présent avec Djibi, auditeur qui se trouve à Kaolack, dans l'ouest du Sénégal. Bonjour Djibi.
Bonjour Mamori et bonjour à tous les auditeurs de la RFI et bonjour aux habitants de Ficelle.
Alors vous souhaitiez réagir après les élections législatives anticipées qui se sont déroulées dimanche dernier en Allemagne. Les conservateurs de la CDU-CSU sont arrivés en tête avec près de 30% des voix devant l'AFD, le parti d'extrême droite qui a réalisé une percée inédite avec 20,8% des suffrages, le double du précédent scrutin en 2021. Quant à la participation, elle s'élève quant à elle à 82,5%. Il s'agit de la plus forte participation depuis les législatives de 1987 dans le pays. Pascal Thibault, correspondant RFI à Berlin, est en ligne avec nous. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Djibi, on vous écoute.
Oui, Dosso, je suis vu sur les ondes de la RFI que le Parti conservateur est arrivé en tête des législatives en Allemagne et que l'extrême droite a réalisé un score historique. Doit-on s'attendre à un changement drastique de la politique allemande avec ces résultats?
Pascal Thibault, continuité ou rupture?
Écoutez, c'est plutôt la continuité qui va l'emporter. D'abord, pour revenir sur le score effectivement historique de l'extrême droite, qui double son résultat de 2021, plus de 20%, elle n'a pas d'option de pouvoir, puisque toute alliance avec un autre parti, y compris les chrétiens-démocrates, est catégoriquement exclue. On s'achemine très vraisemblablement vers une alliance déjà souvent pratiquée, notamment sous Angela Merkel, entre les chrétiens-démocrates, vainqueurs des élections de dimanche, et les grands perdants, à savoir les sociaux-démocrates du chancelier Scholz. Donc on aura à la fois des conservateurs dans ce gouvernement et des sociaux-démocrates donc à gauche. Donc on peut penser qu'on aura une politique plutôt fondée sur des compromis entre les politiques des uns et des autres et qu'il n'y a pas de rupture majeure à attendre.
Alors, pas de rupture majeure, néanmoins, le chancelier aura un nouveau visage. Hein, si je ne me trompe pas, il s'agit bien de Friedrich Merz. Qu'est-ce qui le caractérise, cet homme ?
Alors, Friedrich Merz, c'est un peu, pour faire simple, l'anti-Merkel, sa rivale d'ailleurs de toujours. Il est sur une ligne sensiblement plus conservatrice, qui est aussi celle du parti et qui est aussi la tendance générale en Europe, à savoir à la fois sur les questions de société. On l'a vu ces dernières semaines sur la migration qui a dominé la campagne, avec des positions très fermes, la volonté par exemple de refouler aux frontières frontière de l'Allemagne tout migrant qui n'aurait pas de papier, y compris des demandeurs d'asile. Ça a provoqué un tollé, notamment le fait que la CDU a adopté au Parlement un texte avec les voix de l'AfD. C'était un tabou qui a été brisé, qui était en vigueur depuis la guerre. Ça a provoqué de nombreuses manifestations de protestation en Allemagne. Il est partisan, Friedrich Merz, d'une politique économique, fiscale, libérale, favorable aux entreprises. Son programme prévoit des baisses d'impôts substantielles pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, pour relancer l'économie. En politique étrangère, c'est un transatlantique, mais en même temps un transatlantique aujourd'hui qui est déçu avec l'administration Trump et qui plaide, et là il rejoint Emmanuel Macron, une Europe plus souveraine. Il veut que l'Allemagne à nouveau soit en pole position en quelque sorte et un rôle de leader en Europe, alors que elle avait été un peu, disons, palote sous Olaf Scholz.
JB, vous aviez une autre question?
Oui, comment expliquer cette percée historique de l'AfD et quelles sont désormais les alliances possibles?
Pascal Thibault.
Alors les facteurs sont multiples. Pour faire simple, on peut dire que l'AfD est le parti qui très largement profite de l'impopularité historique du gouvernement sortant et de son chancelier Olaf Scholz, alors que la CDU aurait pu ramasser la mise, avoir un score plus important. Et il y a aussi le fait que le parti profite des inquiétudes très nombreuses des Allemands, inquiétudes face à la migration, après aussi des attaques meurtrières commises par des migrants ces dernières semaines qui ont beaucoup secoué l'Allemagne. Il y a aussi des inquiétudes quant à l'économie allemande qui est en récession depuis 2 ans, avec des nombreux plans sociaux annoncés. Donc il y a aussi des inquiétudes sur l'avenir matériel pour un certain nombre d'électeurs, des angoisses quant à un déclassement potentiel qui explique ce score historique de l'extrême droite. Et puisque le mot alliance a été prononcé, encore une fois, l'AfD sera le premier parti d'opposition avec 20% des suffrages, mais n'aura pas de perspective de pouvoir au niveau fédéral, encore une fois.
Djibou, êtes-vous satisfait des explications de notre correspondant?
Oui, parfait, monsieur Dosso. Merci beaucoup.
Merci à vous, JB, et saluez tous les auditeurs à Kaolack dans l'ouest du Sénégal. Merci également à Pascal Thibault à Berlin. Enfin, nous allons conclure cette première partie d'appel sur l'actualité avec Ali Yakotonou au Bénin. Bonjour Ali.
Bonjour Dodo, comment vous allez?
Très bien, et vous-même?
Je vais très bien, je suis très ravi.
Alors, ce qui a retenu votre attention, ce sont les exécutions qui ont eu lieu en Iran l'an dernier. On vous écoute.
J'ai lu sur le site de RFI que près de 1000 condamnés à mort ont été exécutés en Iran en 2024. Qu'est-ce qui peut expliquer un nombre aussi élevé?
Eh bien, nous allons poser la question à Clément Terme, spécialiste de l'Iran. Bonjour Clément Terme.
Bonjour.
Alors, comment expliquer ce nombre colossal d'exécutions l'an dernier en Iran?
Alors, ce nombre s'explique par la paranoïa sécuritaire du régime iranien qui fait face à des cycles de manifestations, de contestations de plus en plus importants depuis fin des années 90. Mais avec une accélération dans les années 2010 et avec notamment en 2022 le fameux mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et donc là, il y a, si vous voulez, les conséquences de ces mouvements de contestation. On observe surtout que parmi les exécutés, il y a une majorité de personnes qui appartiennent aux minorités ethniques, donc des provinces à majorité kurde et à majorité baloutche, donc qui sont à l'ouest et à l'est de l'Iran. Donc cette paranoïa sécuritaire aussi est liée au fait qu'il y a des minorités qui sont transfrontalières et que le régime a peur d'une déstabilisation par la périphérie et que dans ces zones-là, il va avoir recours à des méthodes de gouvernance beaucoup plus violentes qu'à Téhéran, par exemple, dans la capitale iranienne.
Clément Terme, merci pour cet éclairage au sujet des exécutions qui ont eu lieu l'an dernier en Iran. Ali Yakotonou, merci également pour votre question. Et je précise d'ailleurs que c'est dans cette ville que votre émission sera demain. Juan Gomez vous y attend pour une émission consacrée à la menace djihadiste. Depuis le début de l'année, le Bénin a été le théâtre de 4 attaques, comme les autres états côtiers du Golfe de Guinée. Comment le pays peut-il relever le défi sécuritaire? guerre? Quelle stratégie faut-il privilégier? Quelle coopération régionale et internationale? N'oubliez pas également l'émission qui sera consacrée jeudi à 10h à l'hôtel Azalaï à l'occasion du 35e anniversaire de la Conférence nationale souveraine du Bénin. On vous y attend nombreux et Juan Gomez également. Restez avec nous dans quelques secondes, le journal Afrique sur RFI.